Lecture de l'avant-propos du livre de Pierre-Henri Castel intitulé « Âme scrupuleuse » et paru en 2011 aux éditions d'Ithac. Ce livre a au moins quelque chose pour lui. Il n'y en aura plus beaucoup dans son genre. L'horizon se rapproche en effet à grands pas où plus personne ne pourra prétendre embrasser d'un regard les phases successives de l'élaboration de sa propre culture, ni même, on peut le craindre, quelques-unes seulement réduites à un simple synopsis. Nul renoncement a priori à la quête de la totalité, pour de très beaux motifs critiques, ne sera plus nécessaire. Il sera juste devenu tout à fait impossible de dominer les informations foisonnantes, de plus en plus minutieuses et contre-intuitives, accessibles à tous, qui s'articulent les unes aux autres en réseaux infiniment compliqués et qui vont désormais se déposer en couches successives avec le développement des connaissances, des expériences de toutes sortes et même les ultimes tentatives de synthèse. Un érudit du XVIIIe siècle parvenait en quelques dizaines d'années d'études acharnées à une représentation relativement stable de l'histoire de la civilisation jusqu'à lui. Au XIXe siècle, c'était déjà l'affaire d'une vie, le siècle des Lumières opposant un mur quasi infranchissable à toute entreprise de ce genre. Au XXe siècle, si le projet existe encore, il n'est plus question de le mener à bien, juste d'en scruter l'horizon qui est un simple horizon de sens. Ce vers quoi nous allons est différent. On peut désormais imaginer que deux êtres humains, l'un et l'autre soigneusement éduqués, pourraient un jour prochain nouer conversation et découvrir qu'ils ne partagent pas la moindre référence, ni religieuse, ni philosophique, ni morale, ni esthétique. Chacun n'aurait rien lu ni vu de ce dont l'autre se serait nourri. Même sur les objets communs que leur désignerait le langage, les entrées intéressantes, les perspectives dispensatrices de sens et de valeur seraient tellement hétérogènes qu'ils devraient consacrer une longue partie de leurs échanges à examiner s'ils parlent bien de la même chose. Difficile de décider si cette conversation serait pour l'un et l'autre extraordinairement informative ou une expérience d'incommunication profonde. Elle les exposerait à une situation inédite. Car on a pu parler d'humanité, autrement dit des savoirs historiques, philologiques, philosophiques, qui s'entrecroisent et tissent sur un mode réfléchi le texte de la culture, en s'abritant sous le nom générique de notre espèce. Ces deux-là feraient la découverte bizarre de la contingence de cet abri, bien pis de l'incertitude de l'humanité de l'autre, s'ils n'ont pas la moindre ressource des humanités en commun. En même temps, et le paradoxe m'amuse, il est au moins aussi vraisemblable que l'un et l'autre seraient fascinés par les apports intellectuels inouïs, par la sensibilité dérangeante, par l'usage des mots et la logique de son insaisissable partenaire. Ainsi, la culture ne serait plus, comme autrefois, l'ensemble des références que les hommes partagent. Ce serait l'expérience du plus grand dépaysement qui soit, dès qu'on en rencontre un seul. Les érudits chinois en sont là depuis longtemps. Voilà des siècles qu'écrasés sous trop de siècles d'inassimilables cultures et par la variété sidérante de ses contenus et de ses formes, ils ont dû composer avec l'éclatement et la contradiction des œuvres majeures que masque le privilège accordé à quelques généralités fades avant le fabuleux chatoiement de leurs commentaires puis des gloses de leurs gloses qui en ravivent les pâles contours. Le monde, dans le dialogue des vrais lettrés, n'est peut-être même plus que cela, tentative ironique d'y faire allusion. Mettons que nous soyons à mi-chemin, pas encore chinois, mais déjà plus tout à fait les héritiers sereins des humanités classiques ou modernes. Pour un ouvrage comme celui-ci, cela soulève la question des matériaux. Cela soulève aussi la question des lecteurs à qui il s'adresse. En ce qui concerne les matériaux, je suis allée droit aux sources primaires. Compte tenu des exigences de la justification scientifique, il n'était plus matériellement possible de livrer exhaustivement l'appareil des sources secondaires et tertiaires, les règles d'établissement des textes, les revues de littérature sur chaque point d'histoire, de philosophie ou de science abordée, les polémiques passées et présentes. Hérisser chaque paragraphe d'une demi-page de notes, c'est aujourd'hui l'ordre de grandeur si l'on veut défendre son propos à la régulière, ce n'est plus envisageable. À cet égard, une grande voie du savoir se ferme. De la majestueuse spirale où les connaissances s'entre-référençaient, le dessin se perd peu à peu. Reste une autre voie. Elle n'a rien d'original et a toujours été méprisée parce que dénuée d'objectivité scientifique. Elle consiste à faire de la lecture de ces sources de notre civilisation moins l'occasion d'une instruction ou d'une commémoration que d'une épreuve. J'ai tenté de retrouver au moins autant leur sens que leur effet, de voir si des échos peuvent encore nous en parvenir ou si nous avons déjà basculé dans autre chose. L'histoire qu'on va lire a les yeux rivés sur l'imminence d'un futur où le passé deviendra indéchiffrable. Elle est d'ailleurs déjà pénétrée du sentiment de l'incompréhensibilité de ce que ses protagonistes peuvent avoir vécu. Je m'efforce même, par un décentrement qui est un procédé connu d'anthropologue, de rendre le présent au moins aussi énigmatique que le passé. Car voilà la difficulté, la fabrique de la conscience des hommes qui nous ont précédés ne nous est pas cachée. On va en découvrir plusieurs instruments, des institutions méconnues, certains résultats, mais aussi, puisque c'est le thème que je poursuis, une de ces maladies les plus redoutables avec les soins et les remèdes qu'on lui a procurés. Tout cela s'étale au grand jour, mais plus on pénètre la matière subjective de l'histoire, plus elle nous éloigne de ce dont elle nous rapproche. Car l'effet que cela fait à quelqu'un d'être lui-même, les moyens qu'il mobilise pour faire sienne l'identité morale que son époque lui impose, et plus encore pour contrecarrer les effets délétères de ce que Dostoïevski nomme la maladie de la conscience, qui est l'envers caché et douloureux de notre devenir soi, tout cela reste enveloppé de nuit. La seule possibilité qui subsiste pour avancer dans cette obscurité consiste à reconnaître ce qui en tient lieu chez nous, en nous. C'est de ne pas jeter dessus plus d'obscurité encore, mais de s'armer de notre part de ténèbres, puis d'aller à la rencontre de ce qui a pu arriver à nos semblables, aujourd'hui disparus, en guettant les signes qui trahissent parfois comment, ou mieux, à quel prix, ils sont devenus eux-mêmes. Épreuve donc, et pas seulement ni d'abord déchiffrement, une pareille histoire n'accepte pas, absolument pas, l'évidence normative des figures actuelles de l'identité personnelle, du sujet ou de l'individu. Elle y voit des produits en devenir, peut-être des impasses. Elle fait le pari de les saisir à partir de ce qu'ils récusent, nient ou refoulent, mais aussi de ce qui commence à les déformer, à les soumettre à de nouvelles tensions, au service de buts qui n'existent pas encore, mais qui déjà s'annoncent. Il n'est nullement acquis, par conséquent, que mes résultats aient le droit de prétendre à la généralité. Je sollicite trop chez le lecteur le surgissement de certaines émotions, des intuitions ou des significations dont, en fait, je raconte les vicissitudes et dont j'expose la contingence. Peut-être ainsi, au fond, t'ai-je traité, lecteur, comme l'interlocuteur imaginaire de mon apologue de départ. Je ne sais si ce que je vais dire peut atteindre par quelque bord. Je parie que oui. C'est en tout cas un tête-à-tête que je propose, parce que rien n'est moins garanti que la possibilité de nous représenter par empathie exactement ce qu'ont senti les êtres humains dont il sera question, et, par projection de nos concepts dans le passé, ce qu'ils ont autrefois pensé. On ne peut pas, en tout cas, conjecturer qu'un pilier de notre civilisation vacille. C'est ce que je soutiens, la culpabilité a cessé d'être l'organisateur privilégié de l'existence morale des individus. Et en même temps espérer la reconnaissance unanime d'un tel fait. Car, dit Wittgenstein, on ne suit de règles et on ne s'accorde sur rien qu'au sein d'une forme de vie. Mais si cette forme de vie mute, si elle se transforme au point qu'il ne soit plus si sûr que les présupposés immédiats de la vie, par exemple le régime des sentiments moraux au fondement de la vie sociale, conservent pour tous leur évidence et leur clarté? La conversation que je te propose donc, lecteur, n'a qu'un modèle. C'est ce qui arrive, parfois, quand on lance une interprétation au cours d'une psychanalyse. Car rien n'est calculable dans un pareil coup de dé. Mais quand une interprétation porte, alors on a la surprise de découvrir qu'on se rencontre avec celui à qui on l'adressait sur un terrain absolument neuf, qui n'est ni celui d'où l'interprétation fut lancée, ni celui où se tenait auparavant celui à qui on la destinait. Il y a là, je crois, une très discrète et très modeste invention de culture. Cette invention sert ici de modèle aux métamorphoses qui m'intéressent. Modèle étrange en même temps puisqu'il applique à des événements qui ne se reproduiront jamais. Il s'applique à des événements qui ne se reproduiront jamais. Mais assez de paradoxes, parlons maintenant comme autrefois.